Et si la construction en matériaux naturels, biosourcés et géosourcés était un moyen de se reconnecter à notre chez-nous, de nous recréer une sensibilité, un émerveillement face aux bâtiments que nous habitons et dans lesquels nous évoluons? On parle dans ce podcast plus précisément du matériau paille, dans une discussion entre Frédéric Tribalo de Dixit et Volker Ehrlich, cofondateur du collectif Paille. Cette discussion se tient dans un restaurant où nos deux protagonistes ont partagé un repas. Nous nous excusons donc pour le bruit ambiant. Bonne écoute.
Une ville en pleine expansion.
Les transitions à mener s'accumulent. L'énergie, l'agriculture, les mobilités.
Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle?
C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain.
On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. Hein. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones.
And perhaps the defining trend of the 21st century is population growth.
On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité.
Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès.
Les projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense.
Ce plan est un plan que le public nantais peut venir voir.
Il s'agit du plan de sauvegarde de Nantes.
Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution.
On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise.
Bonjour Volker, tu es architecte associé à l'agence Très Vivant, fondateur du collectif Paille et enseignant à l'école d'architecture Paris-Lavilliers. La première fois que je t'ai entendu, c'était pendant un séminaire de Novavide à Nantes. C'était sur la construction durable, notamment des Pays de la Loire. Et tu avais marqué les esprits en insistant sur les stéréotypes et les craintes infondées que pouvait avoir le monde de la construction sur les matériaux biosourcés. Avant de parler plus précisément de tes projets, est-ce qu'on peut revenir sur ce que tu entends par matériaux biosourcés ?
Oui, bonjour. Merci pour l'invitation. Alors pour revenir à la présentation, je ne suis pas le fondateur, en tout cas pas le seul fondateur du collectif Paille, mais co-fondateur avec, peut-être une dizaine d'autres personnes que je ne vais pas tous énumérer, mais on était nombreux. C'est pareil pour ma société Très Vivant, donc je suis co-associé avec mon forêt. Oui, alors de marquer les esprits, c'est, je pense, une tâche indispensable qui fait défaut. Parce que les esprits se font souvent marquer de manière un peu inconsciente par des influences plus douces, lentes et discrètes, alors que de les marquer avec une intervention, c'est un compliment que j'aime bien entendre, parce que je pense que c'est l'enjeu principal. Si je les ai marqués en parlant des matériaux biosourcés, ben, si là il y a une nécessité de définir ça, je suis dans la même situation de m'obliger à me définir ça parce que c'est pas très simple. Donc bio, ça renvoie à la notion de la vie. Donc ce sont des matériaux qui sont issus d'un processus de métabolisme qui est propre à la vie et qui se délimite par rapport aux autres matériaux naturels qu'on appelle parfois les géosourcés, donc qui sont des matériaux inertes et qui ne sont pas issus d'une reproduction avec un cycle de régénération comme les matériaux biosourcés. Moi je suis pas plus sensible aux biosourcés qu'aux géosourcés. Moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est de travailler, de comprendre et de mettre en œuvre des matériaux faiblement transformés, on va dire. Donc des matériaux qui sont dans un état qui est proche, le plus proche possible à leur état naturel. L'avantage de matériaux qui se renouvellent par régénération du fait qu'il est issu d'un métabolisme, c'est évidemment la question de sa disponibilité. S'il se renouvelle, ben, la disponibilité se renouvelle. Alors que les matériaux géosourcés, eh bien, ils sont présents, mais ils se renouvellent à une échelle beaucoup plus lente. Et donc effectivement ça fait pencher un peu l'intérêt pour les biosourcés. On va voir qu'il y a pas mal d'autres intérêts qui demandent notre attention dans un monde dans lequel l'activité de la construction ben, est fortement reliée à des matériaux très fortement transformés qui sont très loin de leur état naturel. Effectivement ça signifie d'un emploi et d'un besoin en énergie très important. Et ça signifie aussi qu'on n'a pas beaucoup de recul sur la durabilité et le comportement de ces matériaux dans le temps, parce que ces transformations-là, on sait les faire seulement depuis deux générations, depuis l'après-guerre. Et donc un retour dans le domaine du bâtiment, ça devrait être bien plus longtemps, plutôt de l'ordre de plusieurs générations que quelques décennies. Donc voilà pour les matériaux biosourcés, je ne sais pas si ça répond à la question.
Si, complètement. Mais justement, ces matériaux biosourcés ou jeunes sourcés, mais en tout cas qui sont faiblement transformés, sont souvent victimes de stéréotypes, comme quoi ils seraient moins costauds, moins faciles à employer, plus chers. Est-ce qu'on peut revenir un peu là-dessus? Est-ce que vous avez ça dans votre métier? Ça revient souvent.
Oui, alors de quoi est-ce qu'ils sont victimes? Je pense qu'ils sont victimes d'un conditionnement culturel qui est donc une manière de marquer, dont on a parlé en entrant, que justement notre façon de voir et de comprendre les choses, il dépend beaucoup de ce qu'on entend sur ces choses, plus que ce qu'on est en mesure de vivre nous-mêmes, parce qu'il est vrai que dans notre société, on construit a priori la plupart du temps plus soi-même, et on est très peu en contact avec ces matériaux-là. Et donc, quand il est question de se protéger, je ne sais pas, pour faire un bunker, pour l'hypothèse de se protéger dans une situation de guerre ou autre, ben on prend pas le bois, on prend le béton. Et effectivement, les monuments restants de la Deuxième Guerre, ben ceux qui on n'arrive pas à les faire partir sont en béton. Mais est-ce que pour autant, est-ce qu'il faut introduire, par exemple, le béton à tout prix, de manière courante dans l'activité de l'acte de bâtir, même de la maison individuelle? Eh bien, je suis pas du tout certain. Et ces a priori. Donc si on avait réellement la capacité, enfin l'esprit un peu plus libre de se construire nous-mêmes notre sensibilité sans toutes ces influences qu'on vit, je pense, au quotidien, je pense qu'on arriverait très vite à avoir une autre sensibilité que celle qui est un peu qui correspond un peu au sociétal. Parce que cette même société, mine de rien, elle aime bien aller dans la forêt, se mettre au bord de l'eau, aller en vacances dans les centres-villes les plus, parfois très, très anciens, historiques, je sais pas, des villes comme Venise, Berlin, Amsterdam. Tout ça, ce sont des villes qui ont été construites dans des milieux extrêmement agressifs, parce que c'est un milieu marin, avec une ambiance fortement chargée en sel, par exemple, pour Venise. Et si on avait construit ça, du coup, avec le béton armé, ben, ces villes n'existeront plus. Parce que l'avantage et la capacité de ces matériaux naturels, c'est justement de pouvoir mettre en œuvre leur apprentissage qu'ils ont eu, eux, pendant plusieurs millions d'années. Ben pour le bois, par exemple, on voit les forêts coloniser les terres il y a 400 millions d'années. Donc pendant ces 400 millions d'années, effectivement, cette matière, elle a su s'adapter aux conditions les plus agressives. Et là, on revient un peu à ce qui a été dit tout à l'heure, les matériaux fortement transformés, on ne peut pas du tout avoir cette certitude. Avec le béton, on a la certitude qu'il est beaucoup trop rigide pour pouvoir résister à un sol qui bouge, à des conditions de haute des eaux montant et descendant avec des rythmes très variables. Donc là, ça sera sûrement un matériau qui n'aura pas permis, ni si on regarde les cathédrales ou autre chose. Alors voilà, ce sont des bâtiments qui nous parlent énormément. Et de ce fait, je dirais, oui, on n'est pas sensible. Je ne suis pas sûr qu'on ne soit pas sensible. Après, on est conditionné ou on vit des a priori, mais ces a priori-là, est-ce que ce sont les nôtres ou est-ce que ce sont des intérêts de certains qui nous conditionnent et qui nous habituent à ces choses-là? Parce que pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas l'impression que ce sont réellement les nôtres. Aussi long qu'on... Dans la pause à midi, quand je vois mes collègues se mettre au bord du canal, ben j'ai encore l'espoir que nous, on a d'autres sensibilités encore que vouloir se retrouver dans un milieu scellé, bétonné, fermé, de partout.
Oui, Oui, mais c'est aussi c'est intéressant, c'est pas forcément remplacer tout le béton par des matériaux naturels, peut-être qu'il peut en effet être utile dans certains contextes, si on veut faire un bunker, mais qu'il n'a pas du tout la même façon, la même résilience, notamment, et que ces matériaux sont importants aussi pour ça. Et dans tous ces matériaux naturels ou biosourcés, on les utilise pas pour la même chose, on l'utilise pas, enfin il n'y a pas toujours le même renouvellement que certains, mais surtout ils sont pas tous locaux, donc pas, enfin en tout cas ils sont pas, selon les territoires, il y en a qui sont plus accessibles que d'autres. Toi tu travailles notamment sur avec le matériau paille. Est-ce que tu peux revenir là-dessus sur ces avantages spécifiques, mais aussi les conditions de sa mise en œuvre?
Oui, bon, on peut très rapidement essayer de faire cet exercice-là. Donc, effectivement, je suis allemand et souvent, ce qu'on me dit, mais comment t'es atterri ici en France alors que tu t'adresses pour la construction dite écologique, alors que là-bas, vous avez une avance de je sais pas, de 20 années, peut-être que ça a augmenté depuis. Mais donc là où il y a effectivement un peu plus de patrimoine, de savoir-faire et de retour d'expérience dans le domaine de la construction, c'est la construction en beauté paille. Et il y a plusieurs raisons à ça. Donc, une des raisons, c'est que la France, elle a quand même une production céréalière importante, relativement importante. On est, comparaison de niveau de l'Europe de l'Occident, qui est pour l'instant stable et qui a fait qu'il y a aussi un patrimoine historique, qui se compte en plusieurs milliers. Donc là, on n'en a pas les chiffres exacts, mais ça doit être potentiellement plus que 10 000 bâtiments existants en beauté paille, dont la plupart de ces bâtiments ont été construits justement par les agriculteurs eux-mêmes qui ont mis en œuvre ces beauté paille, un peu comme historiquement, parce que le début de la beauté paille, c'était justement des colons qui commençaient à habiter le Nebraska, donc le centre du continent américain, où ils ne trouvaient pas ou très peu d'autres plantes, arbres ou matières fibreux, et leur raison de venir d'occuper ces terres, c'était justement pour la culture céréalière. Donc une fois qu'ils construisaient d'abord leur maison en mottes de terre, donc ils extraient la terre en blocs qui superposaient, et une fois que cette centralisation, donc industrialisation quasiment au début des industrialisations de l'agriculture américaine, se concentrait au centre de l'État, alors qu'on est encore au 19e, donc dans une société qui monte sur cheval et donc il y a un besoin très important en litière, la question se posait comment faire que cette production secondaire, donc la tige des céréales, donc la paille, puisse être employée là où il y a la consommation importante en population, donc sur les côtes, sur les rives du continent. Et cette question-là, puisqu'il y avait un vrai besoin d'avoir de la paille pour les litières sur les côtes, elle motivait le fait de compresser la bonne. De compresser la paille, pardon, pour en faire des bottes, donc des matériaux qui se transportent et qui se transportent plus, de manière plus économe, transporter moins d'air et plus de matière, donc ça veut dire densifier la matière. Et c'est comme ça qu'on a vu, à partir des années 1870, des premiers essais où il y a des presses de vignes qui ont été détournées pour presser la paille et autre façon de faire. Et qui a fait que c'est aux États-Unis où la botte de paille en tant que telle est née, et aussi la construction en botte de paille est née, parce que si ces bottes, ils ont été stockées en attendant justement le moyen de transport, c'était sûrement suffisamment de temps pour qu'en plein été, qui est la période de moisson, on a pu se rendre compte que dans cet environnement où on stockait ces bottes de paille, qui étaient certainement pas aussi monumentales que les murs en botte de paille qu'on voit aujourd'hui dans les autoroutes ou des routes, mais pour autant, ça, c'était suffisamment présent que l'effet d'atténuer la chaleur, donc apporter une fraîcheur, et surtout en période froide de maintenir la chaleur à l'intérieur de ces ouvrages, se faisait ressentir. Et donc du coup, le transfert de la question qui se posait, pourquoi pas prendre certains de ces là pour construire avec. Donc moi, j'imagine en tout cas de cette manière-là l'histoire qu'on a commencé à construire en boîte de paille, puisque on voit très bien qu'après le procédé constructif, il correspond exactement à leur procédé constructif de construire en boîte de terre.
Oui.
Et quand on voit les premières images, donc c'était aussi pas aussi simple qu'aujourd'hui de faire une photo, mais ceux qui se sont fait à l'époque, on voit effectivement avec beaucoup de fierté les familles assis à côté ou sur ces bâtiments même. qui correspondent justement à cette capacité d'avoir transféré une compréhension de la qualité matérielle pour un usage intelligent pour laquelle elle n'était pas prévue initialement. Et donc, en France aujourd'hui, certes, les choses ne se passent plus de cette manière-là, mais ça n'empêche pas que vu qu'il y a tant de paille produite annuellement, il y a eu beaucoup de constructions de part de ces agriculteurs-là qui souvent ont été faites de manière un peu simple et je pense la plupart du temps sans aucune déclaration, c'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas les chiffres exacts. Mais ça fait quand même qu'il y a un retour d'expérience important et ça explique aussi l'autre facteur dont tu as parlé, c'est-à-dire la proximité de la matière. Donc aujourd'hui en France, il me semble plus que 50% de l'ensemble des bâtiments, selon les enquêtes qu'on a pu faire, où la paille elle provient d'un rayon inférieur à 50 km. Donc ça, c'est quelque chose où c'est difficile de trouver un autre matériau.
C'est un peu imbattable.
Voilà. Là-dessus, là, effectivement, il est vrai que peu importe où on se situe en France, et c'est assez c'est symptomatique que même ici en Île-de-France, c'est quand même une région très, très productrice en céréales. Et donc nous, effectivement, les potes avec lesquels on travaille, des fois elles viennent de la Basse-Normandie, mais on l'a aussi fait venir, mais bon, on n'était pas toujours dans les 50 km, mais en dessous de 100 toujours. Et tous les autres matériaux sur le chantier, alors sans exception, impossible de savoir combien de fois ils ont parcouru combien de pays. Et très probablement, ils en ont parcouru pas mal. Et ça vaut aussi pour les isolants qui sont des fois vus du point de vue un peu concurrentiel à la paille, que ce soit la fibre de bois ou la fibre de chanvre ou quoi, parce que ces matériaux-là, bah, souvent, ils sont même récoltés dans un pays, collés dans un autre, séchés dans un troisième, pour revenir par ici. Et donc, ça, c'est difficile à retracer. Même les fabricants ne sauront pas toujours retracer les chemins. Alors qu'avec la paille, bah, quand on connaît l'agriculteur qui l'a fait cultiver, qui l'a fait presser, où on l'a cherché, bah, il n'y a pas trop de doute, au moins du produit final. Après, d'où vient le tracteur, d'où vient l'énergie, et d'où vient les pesticides, c'est une question. Mais voilà, donc là, la proximité, l'accès local à la matière, c'est un des paramètres qui... Et c'est pas tellement l'accès en tant que tel, en se disant, voilà, c'est là, elle vient de 40 km, mais c'est la capacité de pouvoir retracer cet accès. Oui. C'est essentiellement ça. Est-ce qu'il y a une autre partie dans la question?
Oui, mais alors on va peut-être en parler en même temps que je dis dans quelles conditions on peut la mettre en œuvre, mais peut-être qu'on peut parler aussi des exemples directement de ce que toi tu fais à la fois en œuf, qui est plutôt sur la maison individuelle, mais aussi en rénovation. Voilà. Ça va être un bon. Opérationnellement, comment ça se passe concrètement, oui. Comment tu l'utilises?
Oui, ça me revient. Tu avais posé la question, quelles sont les contraintes
à la fois, c'est un avantage, mais aussi c'est contraintes. En effet.
Tout à fait. Donc, oui, donc il y a effectivement à veiller quand on construit avec la boîte de paille à l'eau. Parce que la botte de paille, il faudrait qu'elle reste sèche. Il faudrait qu'elle reste sèche pour une raison principale et qui est de ne pas la rendre nutritive. Donc, ouais. Si la paille elle fonctionne très bien en tant que litière, c'est qu'elle est très peu avoir pas nutritive pour les animaux par exemple. Et donc ils vont pas la bouffer. Ça arrive aux chevaux de les mâcher, mais voilà, ils la digèrent pas. Et donc ça vaut aussi pour les insectes, pour les champignons, mais à condition qu'elle reste sèche, donc qu'elle reste sec. Donc il y a une exigence de maintenir et de contrôler un niveau de humidité relatif qui doit rester inférieur à 20%. Et je dirais, à partir du moment qu'on arrive à assurer ça, tout en ayant des boîtes de qualité, et par une boîte de qualité, j'entends qu'elle a un minimum de densité dans un premier temps, et puis une géométrie suffisamment plane et correcte, parallélépédique, ben à partir de ce moment-là, il n'y a pas tellement de contraintes, mais cette contrainte-là de la garder au sec, elle est forte. Parce que ça veut dire aussi qu'après la moisson, ben, quand il pleut, c'est peut-être pas la paille qu'il faut presser. Ça veut dire aussi que sur chantier, si la paille elle est à nu sur chantier et ne pas protégée, ben, il va falloir veiller à ce qu'elle soit protégée en permanence. Et avant qu'elle soit protégée pour du bon, avec la finition du bâtiment, bah, il faudrait aussi veiller à chaque instant qu'elle ne se prenne pas de l'eau, ou si elle se prend un peu de l'eau en surface, que cette eau puisse être évaporée avant avant la finition de ce bras de mur. Et donc le loup qui souffle, le feu, les rongeurs, tout ça, ce sont pas vraiment des points faibles, parce que bon, le loup, moi pour l'instant je l'ai pas vu. Le loup dans notre monde c'est d'autres acteurs, donc il existe bien ce loup, mais bon, c'est plus
lui. Il peut souffler sur la maison.
Il ne se présente plus en personne, voilà, du quantité, mais il se manifeste dans d'autres acteurs. Mais après, concrètement, dans le milieu biologique, dans les rongeurs, donc à partir du moment que la botte, elle a une densité de 80 kg au mètre cube, qui est la densité qui est exigée par les règles Propail, eh bien, les rongeurs ne peuvent plus entrer. C'est une résistance mécanique trop importante. Et pour le feu, c'est pas très différent. Le feu, il se propage pas dans une botte de paille qui a cette densité-là, parce qu'il y a très peu de présence d'oxygène. Donc l'image qu'on peut se faire d'un incendie, d'un mur en botte de paille, c'est d'un avancement très très long du feu, parce qu'il y a absence d'oxygène. Et ça correspond un peu à ce qu'on trouve dans le bois. Donc certes, il y a l'alimentation en oxygène dans la surface où il y a la flamme lèche, mais à l'intérieur, il n'y a pas d'oxygène disponible. C'est comme si vous voulez brûler un annuaire en téléphone, c'est pas possible. Donc là-dessus, on est tranquille. Et puis les tests en laboratoire, un peu, qui se démultiplient, parce que bon, des fois on est contraint à reprouver ce qui a déjà été prouvé souvent, démontrent très bien qu'il n'y a pas, vraiment autre facteur à veiller. Et à partir du moment où on veille à ça, de mon point de vue, la liberté, elle est... La seule limite à la liberté, c'est celle de l'imagination du concepteur. Donc on peut construire son effort, mais dans les typologies et les usages qu'on veut ou qui sont commandés. C'est pas parce que la botte, elle, c'est un parallélépipède que le bâtiment doit l'être, loin de ça. On a prouvé à plusieurs occasions et plusieurs projets qu'on peut très bien construire, aussi bien en plan qu'en coupe, avec des formes rondes et autres. Et puis par rapport à l'étendue du bâtiment, donc oui, il y a un bâtiment R+8 qui a été construit à Saint-Étienne, on a isolé un immeuble parisien R+7, et puis la paille même... Sans autre structure qui descend les charges, on a par exemple construit un bâtiment R+1, donc du coup on est dans la dimension de la maison individuelle, où la paille tout seul, et là par contre j'ouvre le volet sur une autre notion de construire avec la boîte de paille, c'est ce qu'on appelle la paille structurelle, où là l'ensemble des charges qui résident dans un bâtiment. S'il y a un niveau central, c'est par exemple les charges de ce niveau. S'il y a la toiture, le pont, la neige, le mobilier, les personnes, tout ça, ce sont des charges qu'il va falloir descendre dans les fondations. Et donc, quand on parle de la paille structurelle, c'est effectivement que la paille qui assure cette fonction, la fonction de la structure. Et donc, même en se privant d'autres éléments structurels descendant les charges, on peut déjà aller à R+1. Okay. Quand on ajoute une structure, c'est le plus la paille qu'il faut demander jusqu'où il faut aller, c'est le dévoussement de la structure. Et là, c'est bien que bois, il y a des projets sur les tables des constructeurs et des ingénieurs bois qui vont jusqu'à 100, 120, ouais. 200 mètres. La paille, elle suivra parce qu'elle sera, hein, sera accrochée dedans.
Oui, mais elle peut se mélanger en effet tout à fait sur les matériaux. Et donc, tu es cofondateur du collectif Paille. Est-ce qu'on peut revenir un peu là-dessus? Quelles sont vos missions? Et puis, est-ce que ça va aussi avec un développement de filière un peu plus, je ne sais pas si c'est conséquent, local? Enfin voilà, est-ce qu'on peut revenir un peu là-dessus?
Oui, alors le collectif Paille, il a vu le jour en tant qu'association en 2015. Ou tout début 2016 peut-être. Et l'idée principale, c'était d'avoir une entité régionale pour avoir une entité représentative de l'enjeu de la construction en boîte de paille, parce que bon, comme les enjeux politiques, ils sont eux aussi hiérarchisés au niveau national, régional, local et autres. Rien que si on pense au volet des finances, il y en a certains qui existent sur le niveau régional, et s'il n'y a pas un répondant régional qui peut défendre ou faire la demande de ces solutions, eh bien on passerait à côté. Et donc après, est-ce que qui sont les fondateurs? Donc c'est vrai qu'ici en Île-de-France, on est pas mal de concepteurs prépondérants. Aussi bureau d'études, que ce soit structure ou bureau d'études cuisine. Et malheureusement, un peu L'artisanat se fait un peu attendre pour l'instant dans ce groupe-là. Mais bon, il est vrai qu'ici, en Paris, il y a énormément d'écoles d'architecture et énormément d'agences d'architecture, donc il y a aussi une raison qui réside là-dedans, dans le paysage, tout simplement, de l'économie, de la construction, qui est prépondérant dans la construction ici. Après, donc, on avait aussi des acteurs de la production en plâtre, donc il y a Viojo Plâtrerie qui est cofondateur. Et puis on a quand même des artisans, même des jeunes architectes qui se convertissent en artisans. Et donc c'est là où ça fait plaisir de voir que un des effets de cette mouvance, de cette voix qui porte le collectif, peut aussi justement être de rassembler ces personnes-là et de clarifier un peu où sont les besoins et quelles sont les différentes voies potentiellement entamables pour remédier à des besoins qui parfois peuvent être locaux. Voilà, donc le collectif, donc il est effectivement un représentant au niveau régional du réseau français de la construction en boîte de paille, le RFCP, qui lui, de son côté, il est acteur par rapport aux réglementations. Historiquement, bon, c'est le RFCP qui a sorti ces règles COPAI dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont sorties en 2011-2012, et qui aujourd'hui constituent une base fiable pour pouvoir assurer, mais aussi pour pouvoir propager, diffuser ce savoir-faire et les savoir dans le détail comment construire, parce qu'il ne suffit pas de dire voilà, je prends plutôt une boîte qu'un panneau de fibre de bois. Il y a certains retours d'expérience qui sont compilés dans ces règles pro et qui sont donc un document très précieux pour permettant de diffuser ce savoir. Donc nous, au niveau du collectif, ben on a pu faire depuis 2015, donc là ça fait 7 ans déjà, beaucoup d'actions dans ce sens-là. On a accueilli des étudiants d'architecture sur des chantiers pédagogiques qu'on a co-organisés. On organise des visites de chantier. Il y a eu des rencontres nationales, donc ils sont des rencontres qui tournent, et donc on les a accueillis en 2017 sur Paris. Et là, il y en a une autre organisation qui est en cours pour les accueillir. Donc oui, on a, je pense, quand même eu la chance d'avoir de l'énergie disponible parmi les représentants de ce réseau pour agir dans le sens de se faire entendre sur les intérêts de construire avec le bon travail.
Je voudrais revenir un peu sur cette notion à la fois de matériaux, mais aussi d'humains, de collectifs. Est-ce que finalement, travailler des matériaux plus naturels, plus sourcés, c'est aussi ramener un peu de bien-être dans les chantiers, dans le sens où voilà, on touche ce qu'on est en train de faire, on a l'impression d'être peut-être plus compétent, d'avoir les capacités, et de le faire en plus avec des gens qui sont aussi sensibilisés à un sujet. Est-ce que voilà, ça ramène une certaine, un bien-être, un certain équilibre renouveau à ce type de chantier?
Oui. Alors, cette question-là, pour moi en tout cas, elle renvoie vraiment à la motivation ou même l'enjeu primaire de l'acte de bâtir et puis de construire et comment construire. Et même pourquoi construire. Et je pense qu'il y a une notion dans cet émerveillement de composer, d'assembler des matières pour en faire un espace fermé, pour entrer dedans, pour être dedans et dehors, qui s'est beaucoup perdu, qui est un peu l'émerveillement qui émane de ces espaces-là, et qui devrait nous toucher, qui devrait nous parler. Donc si vous entrez dans une architecture, je dirais, digne de ce nom, eh bien c'est pas uniquement l'espace que vous pouvez mesurer en disant voilà, là je suis dans une pièce de 20 mètres carrés, après il y a une de 10, mais la pièce elle exprime quelque chose de plus, indépendamment des choses facilement mesurables et quantifiables. Et donc ce plus, donc cet émerveillement, cette dimension poétique, qui est certes résultante de la technique et de la matérialité et de la bonne application de ces paramètres-là, eh bien c'est l'essence même de l'exercice architectural, et je dirais même, et surtout de plus en plus même, ça devrait être l'enjeu principal, parce que si aujourd'hui On sent très bien que pas uniquement les acteurs dans le bâtiment, pas uniquement les artisans qui sont de plus en plus des poseurs ou les usagers qui se posent de moins en moins ces questions-là, mais aussi les décisionnaires politiques, aussi les formateurs, donc les professeurs et tout ça, il y a comme s'il y avait une perte de lien avec cette dimension, avec l'émerveillement, avec la divinité, oui, je dirais la métaphysique de cette physique, la sensation qui peut nous interroger sur pourquoi et comment. Et si on se pose pas ces questions-là, on est très vite pris par des fonctionnements auquel on se soumet de manière un peu inconsciente, c'est-à-dire de faire autre chose que compter nos sous et combien d'espace, combien de mètres carrés, combien de volume est-ce que je peux avoir pour ça, et oublier un peu les vraies questions derrière qui sont ceux de la qualité spatiale. Et donc, est-ce que ces matériaux naturels-là, ils peuvent avoir leur rôle là-dedans? Eh bien, c'est essentiellement eux qui vont pouvoir nous rappeler de cette richesse infinie naturelle, puisque effectivement si je sors une plaque préfabriquée en béton ou en polypropylène ou autre, elles se ressemblent une comme l'autre parce que cette plaque là elle est parfaitement isotrope, elle se comporte de manière égale dans tous les sens parce qu'elle sort d'une ligne de fabrication où chacun des entités qui est sorti par une presse ou par un élément qui extrue est changeable. Alors que c'est jamais le cas dans des matériaux naturels, c'est-à-dire vous prenez une planche qui sort d'un tronc, mais même la planche tout à côté, c'est sûrement pas la même, alors que dans la mise en œuvre, ils se valent tous les deux, mais vous n'arrivez jamais à finir à observer ces matériaux-là. Et là, j'ai pris comme exemple une planche de bois, mais ça vaut aussi bien pour la pierre, pour la terre, mais ça vaut même pour les enduits, où là on pourrait se dire oui mais bon là on a quand même un malaxage qui est très homogène, après il est étalé, mais pour autant même quand il est projeté à la machine, il y a quand même l'humain qui passe derrière, qui tire avec une règle cet enduit, et même si cet enduit sera coulé donc dans un coffrage, donc on ne sentira plus la main de l'humain, si c'est un enduit naturel, donc disons faiblement transformé, par quoi j'entends essentiellement les enduits à la chaux, du plâtre, et puis surtout les argiles, eh bien ces enduits-là, ils ont pour qualité de changer à chaque instant avec la lumière en fonction de comment elle frôle la surface enduite, leur aspect, leur reflet, leur message. Et il y a vraiment un message là-dedans, et c'est un peu ce qui fait qu'on est attiré peut-être dans les centres historiques, on aime bien regarder les bâtiments, même quand ils sont enduits, même s'il n'y a pas le colombage bois qu'on voit, mais inconsciemment, on le sent presque derrière, et on voit que les surfaces, ils sont pas égales. Ils sont pas égales ni par rapport à leur entourage et les espaces qu'ils entourent, mais surtout pas par rapport à nous. Et nous, on a vraiment besoin de ça. Je pense que si dans notre société, on ressent un vide, une fatigue qui, je pense, est beaucoup motivé et conséquence d'une absence de stimulation et de sens aussi pour les choses qu'on fait, eh bien les matériaux naturels, certes, ils peuvent apporter ça, parce que travailler la matière, sentir le moment qu'on façonne la matière, son corps en tant qu'acteur plutôt que juste le doigt qui touche une tablette tactile pour mettre en œuvre, pour mettre en marche une machine de façonnage, dans la sensation, je peux vous dire, ce sont deux choses parfaitement différentes, parce que du coup, ce n'est pas que le produit final qui tombe de la chaîne qui nous importe, mais c'est l'ensemble de l'énergie corporelle qui se trouve dans ce matériau à partir du moment que le corps a pu participer à son façonnage. Et donc là, on ouvre du coup de champ un peu, je dirais, on a parlé des espaces et de l'architecture, donc là on parle de l'architecture en tant que telle, et là j'introduis un peu plus aussi la notion de la concevoir cette architecture. Donc je pense qu'effectivement, vous avez parlé de l'échelle de la maison individuelle, mais à l'échelle de la maison individuelle, je pense qu'il y a vraiment une grande capacité infiniment riche où on pourrait inviter des participants pour assurer un certain nombre de tâches en chantier dit participatif ou pédagogique. Et si le propriétaire ou le maître d'ouvrage n'est pas sensible à ça, ben ça ne fait rien du tout. Ça pourrait très bien servir en tant que chantier pédagogique pour d'autres personnes qui sont très demandeurs dans notre société, que ce soit les étudiants, que ce soit les jeunes qui cherchent justement un peu de sens, un peu de présence et un peu d'empreinte de leur action corporelle. Ben là, ils la trouvent. Je la trouve en façonnant la terre. Par exemple, on a fait sur des chantiers participatifs, mais on a fait des briques de terre compressées. On a fait des milliers avec des intervenants qui changeaient et que chacun, il éprouvait peut-être des sensations qu'il avait quasiment pas connues auparavant. Parce que, en effet, dans ce monde-là, ben, on est tenu assez loin, assez distancé par rapport à cette facilité d'entrer en contact avec la terre, par exemple, mais même avec le bois, avec les plantes, avec la nature. Donc oui, je pense que l'acte de bâtir, donc de construire, donc construire, ça veut dire assembler, on devrait se réapproprier une bonne partie de cette dimension-là, et ça nous construirait nous aussi. C'est pas uniquement l'espace qu'on construit, on se construit. En tout cas, dans mon entourage, je sens beaucoup d'une aspiration, d'une demande de ça. Que ce soit dans le milieu des étudiants d'architecture ou que ce soit même parmi les clients, donc ils sont preneurs, favorables, et plus ça va, plus on les sent détachés de ça, et pourtant, et c'est là où c'est confortant et inspirant, pourtant sensible, quand on leur parle de ces choses-là, eh bien, bon, il y a toujours des exceptions, ça vaut certainement pas pour 100%, mais au plus tard, quand ils ont mis la main, ben, ça les alimente, ça les fait entrer dans un monde qui leur parle. Et que ce monde nous parle un peu plus, je ne sais pas ce qu'on pourrait avoir comme objectif plus noble, que ce soit en architecture ou par ailleurs, mais c'est certainement là où il y a un long chemin à faire de re-entrer en contact, en dialogue, en écoute avec ce monde pour peut-être lui faire un peu moins de mal et au contraire se construire ensemble plutôt que vivre dans l'illusion de se construire soi-même au détriment de notre entourage.
Merci, ça me paraît être un beau mot de la fin, en effet, de se servir peut-être des matériaux naturels pour se construire, s'équilibrer, retrouver du sens à ce qu'on fait, alors que ce soit son travail, mais aussi quand on va construire sa propre maison. C'est chouette que ça puisse poser ces questions-là, ce type de matériaux, et que ça puisse convaincre aussi les gens de remettre les mains dans la terre, dans la paille. Et que ça puisse leur redonner une sorte de pouvoir aussi sur leur construction et sur leur construction où ils vivent et leur construction personnelle.
Oui, c'est la notion d'arriver chez soi. Ouais. Donc il y a certains philosophes qui parlent de ça et qui disent voilà, on est sur Terre pour réellement arriver chez nous-mêmes, pour nous trouver, pour savoir nous connaître et reconnaître. Et en fait, voilà, si on construit sa maison sans chez soi, est-ce qu'on est vraiment chez soi si on n'a pas pu profiter de cet acte de mettre en place cet endroit-là sans se poser cette question en parallèle ce qu'on cherche réellement en tant que personne et aussi en tant que milieu qu'on souhaite habiter. Et si cette question elle reste très loin, très, très, très abstrait et lointain de la réalité, de la pratique du quotidien, ben, ça va être difficile, je pense, de le trouver chez soi.
Ce sera en effet notre mot de la fin. Pour les auditeurs et les auditrices, on mettra évidemment le lien vers votre site, mais aussi vers les nombreuses publications et le livre que vous avez coécrit, hein, d'accord, il y a en 2020. Et voilà. Merci beaucoup, Volker. On pourra en reparler plus tard. C'était le début d'une discussion. Au revoir.
Merci également. Ça m'a fait grand plaisir.
Merci à Volker Ehrlich pour cet éclairage sur la construction paille et un retour à soi dans la fabrique de notre chez nous. Retrouvez d'autres pionniers qui refont la ville en vous abonnant à notre newsletter ou sur le site dixit.net. À bientôt!